Mana Ono, salam. Je suis Simbak et vous écoutez actuellement le podcast Malabar. Avant de commencer, j'aimerais vous présenter Maïe Rami Prod, qui a monté ce nouvel épisode. Entrepreneur basé en France, il est disponible pour vous accompagner dans tous vos projets vidéo et photo. Retrouvez ses contacts dans le lien de l'épisode. Malabar, c'est le premier podcast qui vous fait découvrir Madagascar autrement. À travers les expériences de mes invités, je vous emmène à la découverte de ce pays qui regorge non seulement de richesses, j'ai nommé la veine de Madagascar, mais aussi et surtout d'une génération fantastique qui veut aider le pays à se développer. Dans chaque épisode, vous découvrirez le parcours de mon invité, ses expériences et son regard porté sur le pays. Alors pour suivre toute l'actualité de Malabar, n'hésitez pas à vous rendre sur malabar.fr ou à suivre notre Instagram. Et maintenant, je laisse place à ma conversation avec mon invité du jour. Aujourd'hui, ma nouvelle invitée s'appelle Tina et exerce un métier formidable qui est d'être professeure d'espagnol à Madagascar. Alors après un parcours riche en études et en expérience professionnelle dans le secteur des ressources humaines, Tina décide de se réorienter pour enseigner. Alors dans cet épisode, elle vous racontera comment elle est tombée amoureuse de la langue espagnole, comment elle l'enseigne aujourd'hui et surtout elle vous partagera ses meilleures recommandations pour apprendre la langue à une vitesse grand V. Je vous laisse avec Tina et je vous souhaite une très bonne écoute. Bonjour Tina, merci beaucoup d'être aujourd'hui avec moi sur Malabar. Comment vas-tu ?
Bonjour Simbach, merci, ça va bien.
Très bien. Alors aujourd'hui, on va parler bien sûr de toi et de ton parcours. Donc pour te présenter aux auditeurs, je vais te demander de donner ton nom, ton prénom, ton âge et bien sûr, quel métier tu fais aujourd'hui à Madagascar ?
Oui, je suis Tina Robert-Azafmbelu, j'ai 31 ans et actuellement je suis chef du projet Ressources éducatives, un projet qui distribue des livres jeunesse pour les enfants à Madagascar.
Très bien. Et alors nous, on est entré en contact via LinkedIn. C'est moi qui t'ai contactée parce que j'ai vu que tu étais impliquée dans l'apprentissage également de la langue espagnole. Et c'est quelque chose qui n'est pas forcément très, très courant à Madagascar. Donc, je voulais qu'on en parle aussi aujourd'hui. Mais avant ça, j'aimerais que tu m'expliques comment tu as fait pour tomber amoureuse de la langue espagnole et qu'est-ce qui t'a poussée à devenir aussi professeure d'espagnol à Madagascar.
Oui, comment est née la passion pour la langue espagnole? C'est une anecdote un peu rigolote qui a commencé vers les années de fin du collège. À l'époque, vers 2005, il y avait eu un grand, comment dire, ça a été vraiment très médiatisé, la victoire de Rafael Nadal, le joueur de tennis espagnol qui a gagné le Roland Garros à 18 ans, et ça a fait pencher la balance pour moi vers la langue espagnole en tant que langue vivante numéro 2 pour les études au lycée, et ma passion a été renforcée par la passion et la sympathie de nos professeurs d'espagnol, et ça, il y a eu un effet où par ces différents facteurs, j'ai vraiment excellé dans la matière espagnole. J'avais toujours les meilleures notes pendant les 3 années de lycée, et voilà, en gros.
Super. Donc c'est un peu c'est le sport qui t'a fait aimer la langue espagnole, c'est l'homme, c'est
c'est plus l'homme, je ne suis pas très sport.
Oui. C'est bien, moi la médiatisation a servi à faire naître en toi une passion pour la langue espagnole. Et donc ce que je voulais savoir, c'était aussi qu'on revienne un peu en arrière, parce que toi, avant d'être professeur en langue espagnole, tu as déjà eu un peu cette fibre pour l'humain, étant donné que tu as eu un parcours assez riche, tu as travaillé dans les ressources humaines, tu as contacté beaucoup de gens aussi pour pouvoir apprendre et développer cette culture pour l'Espagne et pour sa langue. Donc raconte-nous un peu en quelques mots ton parcours avant de te lancer dans l'apprentissage de la langue.
Après les études au lycée où j'avais l'espagnol comme langue vivante 2, j'ai dû suivre des études qui n'avaient rien à voir avec l'espagnol, en gestion des ressources humaines et en sociologie. Et parallèlement, il y avait toujours cette passion, cette envie de m'immerger dans la culture espagnole. Du coup, j'ai fait des recherches sur Facebook, j'ai intégré des groupes où on valorisait en même temps le français, l'espagnol. J'allais sur des groupes sur Facebook en espagnol pour les groupes de musique que j'aimais, par exemple. Et je me suis mise à contacter des personnes qui vivaient au Mexique, qui vivaient en Colombie, qui vivaient en Espagne. Et j'ai échangé avec eux via Messenger. On a organisé des appels vidéo pour toujours pouvoir utiliser la langue espagnole et découvrir aussi la diversité de cultures qu'il y a derrière, que ça soit au niveau de l'Espagne ou en Amérique latine. Et après, je cherchais un moyen de découvrir l'Espagne. Et après avoir échangé avec ces personnes et en révisant à chaque fois aussi les cours que j'avais obtenus au lycée, j'ai passé le DELE ou diplôme d'espagnol en langue étrangère à TANA et j'ai obtenu le DELE niveau intermédiaire. Et ça m'a permis de postuler après pour des bourses en Espagne que j'ai finalement obtenu en 2018 pour suivre un master recherche en éducation, diversité culturelle et développement communautaire à l'Université Santiago de Compostela. Et 2 ans après mon retour d'Espagne, j'ai sauté le pas en partant d'une carrière et d'une formation en gestion ressources humaines pour me réorienter professionnellement en tant que professeur d'espagnol dans un collège français à Majunga. Et parallèlement à mes activités, je donne encore des cours particuliers d'espagnol à des enfants et une adulte.
D'accord. Donc aujourd'hui, tu es aussi professeur particulier pour les enfants et les adultes. Oui. Donc pour revenir un peu sur ce point, toi aujourd'hui, bien sûr, tu es devenue professeur d'espagnol parce que c'est quelque chose qui à toi te passionne. Mais ce qui est bien quand on est professeur, c'est d'avoir bien sûr des élèves et des étudiants en face de soi. Comment tu fais aujourd'hui pour motiver les élèves, les étudiants à apprendre la langue espagnole? Est-ce que c'est fait dans un contexte où ce sont les parents qui les inscrivent? Est-ce que c'est toi qui vas démarcher des écoles? Voilà, parle-nous un peu du processus pour trouver tes élèves.
Ah oui, pour les cours d'espagnol, pour les cours d'espagnol particuliers actuellement, c'était plutôt les parents qui m'ont contacté, l'étudiante que j'ai actuellement, et j'ai bien confirmé la maman et la tati qui sont en contact avec moi si leurs enfants ils sont motivés ou ça vient de l'initiative uniquement des parents. Mais en fait c'est les élèves vraiment qui veulent découvrir la langue, qui veulent découvrir la culture, et ça joue beaucoup. Et je le vois dans les cours aussi, comme c'est des enfants de 10 à 11 ans, on a des cours hebdomadaires d'une heure par semaine, et même pour une heure ça peut être très très long pour des enfants qui ont déjà passé la semaine à suivre des cours à l'école. Et j'adopte une approche ludique et très participative pour qu'ils puissent apprendre tout en s'amusant. Et je suis assez bluffée. Quelquefois, on n'a pas fait cours pendant un mois et ils se souviennent encore très bien des vocabulaires, de ce qu'on a vu un mois auparavant, parce que ils aiment la langue et ils ont aussi participé pendant les cours. Et pour l'étudiante, c'est une adulte. Elle m'a aussi vue sur LinkedIn et c'est elle qui m'a démarchée. Et avec les adultes, bon, il y a un peu moins le côté ludique, mais comme ça vient de son initiative personnelle, il y a plus d'engagement. Et c'est des cours très participatifs aussi, avec des activités de compréhension orale, d'expression orale et d'expression écrite.
D'accord. Et donc tu disais que tu adoptes une approche ludique, donc ce qui est très bien quand tu apprends une langue. Aujourd'hui, on parle beaucoup de certaines langues qui, voilà, comme le mandarin, l'anglais, le français, qui sont des langues très importantes qu'il faut que tu parles absolument quand tu es diplômé, etc. On parle un peu moins de la langue espagnole. Déjà, je voulais savoir quelle place a la langue espagnole à Madagascar. Est-ce que c'est une langue que tout le monde apprend en tant que LV2, comme tu disais, quand tu as le choix entre allemand et espagnol? Est-ce qu'il y a beaucoup de demandes?
Oui, effectivement, au niveau mondial, on promeut beaucoup l'anglais, le mandarin. Et par rapport à leur, comment dire, leur place économique au niveau mondial et à Madagascar, l'espagnol, c'est une langue disons marginalisée par rapport à cela, parce que même la présence d'entreprises ou d'organisations espagnoles ou latines est vraiment assez rare par rapport à des structures anglophones ou chinoises. Et du coup, au niveau de la demande, donc elle est assez relative, mais par contre, comme elle fait partie du programme scolaire, en particulier pour les écoles et les collèges du système français, il y a quand même pas mal de demandes de profs particuliers d'espagnol et même de professeurs d'espagnol au sein des collèges aussi. Et pareil pour les collèges qui sont en dehors du système français. Au niveau scolaire, vraiment, il y a, oui, je dirais qu'il y a quand même une demande, mais c'est pas au même niveau que pour l'anglais ou le mandarin, par exemple. Et sinon, il y a le département d'études hispaniques à l'université d'Antananarivo qui est très actif dans la diffusion de la culture et de la langue hispanophone en général aussi.
D'accord, d'accord. Donc c'est un appel un peu à tous ceux qui veulent devenir professeurs d'espagnol, qu'il y a de la demande qui existe. Donc justement, toi, oui. En tant que professeur, j'avais deux questions. Donc la première, en général, comment tu fais pour expliquer un peu la culture hispanique? Tu as vécu un petit peu en Espagne, mais pas en Amérique du Sud, par exemple. Est-ce que tu favorises plus la culture espagnole ou est-ce que tu partages aussi avec tes étudiants des outils pédagogiques sur la culture d'Amérique du Sud? Parle-nous un peu de comment tu mets en place l'apprentissage linguistique et culturel.
Effectivement, quand on parle de langue espagnole, il y a en même temps la culture de l'Espagne en tant que pays et aussi les différents pays hispanophones d'Amérique latine. Et il faut savoir que quand on parle de langue espagnole, on a tout de suite en tête comment dire les éléments culturels qui viennent tout de suite en tête à Madagascar quand on parle de langue espagnole, c'est c'est les chansons de reggaeton comme Despacito.
D'accord. Donc,
qui viennent de l'Amérique latine, du Costa Rica. Il y a sinon pour les enfants, il y a aussi les dessins animés comme Coco et Encanto avec la famille qui a différents membres, qui a des membres avec différents pouvoirs. Mmh. Et il y a donc pour les entrées culturelles, il y a toujours la fête des morts au Mexique. Oui. Et pour l'Espagne, il y a les différents festivals qui ont beaucoup d'importance dans chaque commune espagnole. Donc, il y a à la fois la valorisation de ce que les élèves savent déjà par rapport à la culture espagnole. Donc, les chansons qu'ils entendent tout le temps à la radio, les dessins animés qu'ils voient. Et sinon, certains traits culturels de l'Espagne.
Et est-ce que parmi tes élèves, tes étudiants, est-ce qu'il y en a qui ont eu l'opportunité d'aller voyager en Espagne ou en Amérique du Sud?
Parmi tous les élèves que j'ai eus dans le cadre du collège français ou même actuellement dans le cadre des cours particuliers, il n'y en a pas encore eu, mais je vois que pendant les cours, ça réveille vraiment l'envie de découvrir l'Espagne.
D'accord, très bien. Donc pour l'instant, c'est encore assez virtuel, mais ton objectif, Tina, c'est bien sûr de faire naître en eux la volonté de voyager et peut-être d'aller en Espagne ou peut-être plus loin en Amérique du Sud. Donc tu nous tiendras au courant. Et ce que je voulais savoir aussi également, c'est donc tu disais que l'apprentissage de l'espagnol à Madagascar, c'est pas forcément encore quelque chose de très très démocratisé. Est-ce que toi tu as l'ambition de développer ça? Est-ce que tu mets en place des initiatives pour aller séduire entre guillemets plus d'élèves, ou pour toi le fait que ce soit encore une langue assez marginale, ça te convient et tu laisses l'avenir faire les choses?
Comment dire, à tous les défis que je dois relever au niveau personnel et professionnel actuellement, la seule chose que je fais, c'est vraiment de pour la communauté hispanophone à Madagascar, donc les sortants du département d'études hispaniques à l'université d'Antananarivo, c'est vraiment de participer au groupe, de partager s'il y a par exemple des festivals du film espagnol, ou bien s'il y a des cinéastes, des artistes espagnols ou hispanophones qui viennent à Madagascar. Je partage dans le groupe, il y a beaucoup d'échanges au sein de la communauté qui est déjà existante. Et après, je ne me vois pas encore actuellement mettre en place des initiatives pour donner plus de visibilité aux avantages qu'offre la maîtrise de la langue espagnole.
D'accord, très bien. Et pour terminer, j'avais une dernière question avant qu'on passe à mes petites questions favorites d'ordre un peu plus personnel. Bien sûr, en tant que professeur, on a toujours quelques anecdotes avec les élèves, les étudiants. Est-ce que toi, tu peux nous partager une expérience mémorable, une anecdote que tu as eue durant tes années, tes heures d'apprentissage d'espagnol à tes élèves avec nous à Madagascar?
Ce serait une anecdote un peu rigolote ou pas forcément?
Comme tu veux, tu peux faire les deux.
Oui, bon, si c'est comment dire, quelle anecdote? Ce qui me vient tout de suite en tête, c'est l'association que les élèves font dans le cadre de mes cours au collège français à Majunga, entre la sonorité de l'espagnol et, bon, pour dire merci, c'est gracias, c'est madame, c'est señora, mais bon, il y a toujours les élèves qui sont très extravertis lors des classes et qui, à chaque fois, reviennent toujours avec merci os, madame os, mais pendant mes cours, donc c'est... ils ont beaucoup de latitude pour pouvoir s'exprimer, comme c'est des cours de langue aussi, donc ils sont pas là pour se taire et prendre des notes, mais plus pour s'exprimer. Et c'est ce qui m'a marqué. Je me souviens toujours, 2 ans après, il y avait un élève qui était très extraverti qui disait à chaque fois merci os, madame os, mais il savait déjà que normalement c'était gracias, señora. Et sinon, avec les élèves en cours dans le cadre des cours particuliers actuellement, je suis vraiment bluffée quelquefois après une pause d'un mois ou même 2 mois. Ils se souviennent de certains vocabulaires qu'on avait vus vraiment beaucoup, beaucoup de temps auparavant, parce qu'ils l'ont appris de manière ludique et parce qu'il y a aussi cet intérêt, cette envie d'apprendre chez eux.
D'accord, d'accord. Bon, le Mercios, Madame Os, il est assez classique, je pense, nos auditeurs, je suis sûre, ont déjà eu l'expérience ou l'ont déjà fait eux-mêmes. C'est très, très typique, en général, de rajouter des O, des A, des, voilà, à tous les mots français qu'on connaît. Donc, merci pour ce partage. Merci, Tina. Donc, j'avais une dernière question, en fait, qui me venait à l'esprit, là, tout de suite. J'étais en train de me demander, toi, en tant que professeur aujourd'hui, quels conseils tu donnerais aux personnes qui veulent apprendre l'espagnol ou à celles qui voudront devenir enseignants de la langue espagnole?
Oui, pour les personnes qui voudraient apprendre l'espagnol, je les encourage vivement à valoriser l'utilisation de tout ce qui tourne autour des nouvelles technologies, parce qu'il y a des applications gratuites qui permettent vraiment de, à force de les répéter, de connaître les vocabulaires basiques. Il y a aussi beaucoup de groupes d'échanges sur Facebook, de pages qui valorisent la langue espagnole en même temps avec, comment dire, des passages vers le français, l'anglais, l'italien. Et partout dans le monde, en fait, grâce à Internet, on peut se mettre en contact avec des personnes des quatre coins du monde. Et où nous, si on est basé à Madagascar, on peut leur partager, s'ils sont intéressés, la langue malgache ou le français, puisque c'est une langue, la deuxième langue la plus parlée à Madagascar. Et si on veut enseigner l'espagnol, il faut toujours rester à jour et chercher à chercher une entrée ludique si on s'adresse à des enfants, et si on s'adresse à des adultes, c'est essayer de avant de construire tout le cours d'espagnol, chercher bien à voir qu'est-ce qu'ils veulent savoir à la fin des cours. Est-ce qu'ils veulent juste parler? Est-ce qu'ils veulent juste comprendre, ou est-ce que c'est plus dans le cadre formel où ils veulent maîtriser l'écriture de la langue et vraiment adapter nos cours à leurs besoins si c'est pour des adultes.
D'accord, très bien. Bah écoute, merci beaucoup pour ces conseils. Je me permettrai de rajouter aussi que la langue espagnole, c'est une langue vivante et comme tu le disais tout à l'heure, il y a tellement de ressources dans notre quotidien qu'on a à proximité, et vraiment, comme tu le disais, avec tout ce qui est sur Internet, les ressources en ligne. Et bien sûr, avec la musique. Alors, tu citais tout à l'heure le reggaeton. Après, il faut faire un petit peu attention au vocabulaire, parce que parfois, c'est pas forcément le meilleur vocabulaire pour commencer. Mais voilà, c'est dansant et il y a certains mots qui sont plus faciles à apprendre quand on les chante. Comme par exemple Despacito. Je suis sûre qu'avant, les gens ne savaient même pas ce que ça voulait dire. Ou ne savait même pas l'existence du mot.
Oui, même jusqu'à maintenant, oui.
C'est vrai. Donc, pour terminer, je voulais te poser trois dernières questions que je pose régulièrement à mes invités, qui sont d'ordre un peu plus personnel et surtout sur Madagascar. Alors, quand on a préparé l'épisode ensemble tout à l'heure, tu me disais que tu étais un pur produit tananarivien. Donc, la première question sera normalement très facile pour toi. Étant donné que j'aimerais que tu me donnes une expression que tu entends toujours à Madagascar ou que toi, tu dis peut-être tout le temps et qui pour toi reflète le pays.
Oui, une expression qui reflète Madagascar ou qui...
Ça peut être en malgache également. D'ailleurs, c'est peut-être mieux.
Oui, je dirais c'est Ftongas, c'est Futoangas ou bien leur malgache si on veut dire. C'est-à-dire que c'est un peu une plaisanterie quand on fait des rendez-vous avec entre malgaches ou malgaches avec d'autres nationalités. On a tendance à arriver en retard, ça peut être des retards de 30 minutes et voire au-delà. Et entre malgaches, on rigole un peu, on se comprend. Et en fait, derrière, il y a toute la culture, un aspect de la culture malgache qui est cette grande flexibilité par rapport au temps et par rapport à divers aspects de leur vie. Et il y a aussi l'aspect mur-à-mur où parfois on s'est fixé telle ou telle chose. Et une fois qu'on rend le livrable, c'était pas vraiment comme ce qui était prévu. Mais il y a différents facteurs à prendre en compte derrière. C'est ce qui me vient à l'esprit.
D'accord, parfait. La deuxième question, quel est ton endroit préféré à Madagascar ?
Alors, mon endroit préféré à Madagascar, au niveau de ce qui fait moi, ce qui fait ma personnalité, ce qui fait que je suis actuellement, c'est indéniablement Tana. Parce que la ville, elle est sale, certes, mais au niveau émotionnel et culturel, je suis née ici, j'ai grandi ici, et il y a beaucoup d'endroits qui ont une charge émotionnelle pour moi. Par exemple, lorsque j'étais enfant, on se promenait beaucoup sur la haute ville, on visitait le palais de la reine avant que ça ne soit brûlé. Et il y a quand même quelque chose de très beau. Au-delà de tous les défauts de Tana au sein de cette ville, en fait. Et il y a aussi le fait que ma famille très proche est aussi basée ici. Il y a cet ancrage émotionnel aussi.
D'accord. Est-ce qu'il y a un quartier particulier à Tana ou c'est vraiment toute la ville de Tana ?
C'est la haute ville parce que là-bas c'est un peu plus propre et on ressent aussi l'héritage historique que la haute ville a avec les différents palais qu'il y a là-bas, les constructions historiques. Il y a le musée de la photo. C'est un peu un quartier résidentiel, mais très très calme par rapport à d'autres endroits de la ville. Il y a une belle vue, c'est vraiment agréable comme quartier.
D'accord, parfait. Et pour terminer, ton plat malgache préféré, ça peut être un plat que tu vas manger toi au restaurant, que tes parents cuisinent ou que toi tu adores cuisiner.
Oui, mon plat malgache préféré, c'est le foinsbou sienaksu. Donc, c'est la viande de porc avec les foinsbou. Je ne sais pas si c'est des pois chiches ou c'est un type de pois. Et oui, et c'est mon plat préféré. Je trouve que c'est vraiment, vraiment délicieux.
D'accord, oui. Ça ressemble au pois chiche, mais je ne suis pas certaine que ce soit du pois chiche. Je ne sais plus. Oui. On demandera à nos auditeurs, je crois que ça s'appelle pois de Bambara, quelque chose comme ça, mais voilà, on leur demandera. Bah, écoute, merci beaucoup. C'est aussi mon plat favori avec un peu de lassar wadabi, j'avoue. Pour terminer, est-ce qu'il y a un message ou quelque chose que tu voudrais partager aux auditeurs de Malabar, un thème qu'on n'a pas abordé, que tu as envie de développer pour ces dernières petites minutes ?
Oui, mon message, c'est un peu en lien avec ce que j'ai vécu par rapport à la reconversion professionnelle. Et ça peut être aussi dans tous les aspects de la vie, c'est que chacun est maître de sa vie, donc chacune est aussi maîtresse de sa vie. Et s'il y a une situation qui ne nous plaît pas, on essaie de prendre du recul et de voir qu'est-ce que moi je peux changer pour que ma vie va dans le sens que je veux qu'elle prenne, et prendre les mesures nécessaire par rapport à cela, ou si finalement je ne peux pas changer la situation dans laquelle je suis. Donc, accepter la responsabilité que c'est moi, c'est peut-être un choix difficile, mais j'accepte la situation dans laquelle je suis et pas forcément dire que c'est la faute à un tel, c'est à cause de ceci. Et donc, toujours essayer de voir qu'est-ce que je peux changer, faire évoluer, qu'est-ce qui est en ma capacité de... pour faire changer, pour faire évoluer ma vie. Voilà, en gros.
Super, bah merci beaucoup Tina. Je tiens à souligner que j'ai adoré cet entretien, pas seulement parce qu'on parle de la langue espagnole, mais parce que tu as un esprit vraiment fédérateur et que tu es vraiment passionnée par ce que tu fais. Et honnêtement, ça donne envie de t'avoir en tant que professeur. Donc je te remercie beaucoup pour cet entretien. Et puis, écoute, je te dis bonne continuation et puis à bientôt sur Malabar.
À bientôt, au revoir Saint-Match, merci beaucoup.
Ça y est, l'épisode est terminé et merci de l'avoir écouté jusqu'au bout. Si vous souhaitez en savoir plus sur l'actualité de Malabar, n'hésitez pas à vous rendre sur le site malabar.fr ou sur Instagram. Je vous mets tous les liens dans les notes de l'épisode. Malabar est toujours à la recherche d'expériences insolites. Alors si vous connaissez quelqu'un ou si vous-même souhaitez partager votre histoire sur Malabar, n'hésitez pas à m'écrire sur LinkedIn. À bientôt pour un nouvel épisode de Malabar.